Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bienvenue dans Radio Foot International, dans votre émission qui parle de football et aujourd'hui de la finale de la Coupe de France inédite. Le PSG, triple tenant du titre et déjà sacré champion de France 2018, jouera contre les Herbiers, un club de 3e division, des Vendéens conscients de leur chance de participer ce soir à la fête dans le mythique Stade de France où des milliers de supporters viendront les encourager. Mais ces footballeurs modestes redoutent de ne pas offrir de spectacle face aux stars internationales du Paris Saint-Germain. Un match à suivre sur RFI en direct, ainsi que nos analyses à l'issue de la rencontre. À Rome, la Juventus de Turin et le Milan AC face à face pour une finale, celle de la Coupe d'Italie, moins déséquilibrée que celle de France, mais qui opposera une équipe bianconeri, insatiable, triple tenante du titre, et une équipe rossoneri, affamée par ses années de disette, 15 ans d'attente déjà pour le club milanais. Sauront-ils renverser la vieille dame, les hommes de Gennaro Gattuso? Nous essaierons de répondre à cette question. Et puis qui réussira à calmer les dirigeants de Lyon et de Marseille alors que la fête d'une finale européenne, la finale de la Ligue Europa se profile dans la capitale des Gaules et dans son stade moderne? Eh bien les présidents et entraîneurs des deux clubs olympiens s'affrontent à coups de petites phrases et de mots très méchants, désespérants.
Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.
On verra s'il nous écoute, Dominique Sévrac du Parisien Notre Confrère.
Bonjour, nous écoute.
Vous lui direz qu'il faut s'arrêter là.
Bonjour Annie.
Bonjour Philippe Doucet.
Bonjour Madame Annie.
Vous le direz aussi sur Canal+, il faut s'arrêter.
Bien sûr, il faut
qu'on leur dise là.
Je vous demande de vous arrêter.
Chérif Guémour de SoFoot, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Alors vous aussi, faut vous y mettre parce que je crois qu'ils sont sourds là. Hugo Moissonnier, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Radio Foot, c'est parti.
Je connais votre qualité, ce que vous avez dans la tête. Vous allez vouloir jouer. Et vous avez raison. Parce que si on joue pas mardi, on jouera jamais. Hein. C'est là qu'il faut jouer.
Un gémissement venu des profondeurs de la terre.
T'as fait ton pronostic?
Ouais, toujours pareil, moi. Gagnant.
4-2.
Non, 2-1 pour les Herbiers.
4-2 pour les Herbiers.
Non, non.
Ça va être chaud.
Moi, j'y crois depuis le départ. Non, hein. De toute façon, on l'a toujours dit. Hein. Puis on le pense.
En rouge et noir. Je crois pas au conte de fées, mais j'espère une chose, que soit la petite bête qui mange la grosse.
Dans le gratin du foot européen sur la pelouse, on va rentrer sur le terrain avant tout pour faire honneur à cette finale, jouer notre chance à fond. Après, on verra bien, ce sera déjà voilà, un moment magique pour tout le monde.
Je vous attends.
Les Vendéens prêts au combat, comme dans le parc d'attractions voisin du Puy du Fou, hein, bien sûr. Ça a beaucoup inspiré Guillaume
Monsieur
Ploquin.
Charrette. Monsieur
et oui,
Charrette.
Exactement. En tout cas, le club de la ville des Herbiers, donc cette ville de l'ouest de la France, vit une incroyable aventure. Un rêve, les yeux grands ouverts, cette petite équipe d'amateurs, comme on dit, alors des fonds hein, de la 3e division, aura ce soir le grand honneur de disputer cette finale de la Coupe de France au Stade de France, devant le président de la République et bien d'autres édiles hexagonales. Leur qualification, en fait, face au PSG a suscité des articles, des reportages bien au-delà de la France. Cet affrontement entre David et Goliath pour la presse italienne, portugaise ou même brésilienne, ou encore chez nous, le petit poussé face à l'ogre. Alors, l'histoire intéresse beaucoup, les Herbiers le savent, eux qui viennent d'avoir donc le privilège de s'entraîner bien dans les locaux réservés d'habitude à l'équipe de France, Didier Deschamps et ses hommes, et ils ont bien conscience donc que l'enjeu, la pression commence à monter. Profiteront-ils d'ailleurs de ces 90 minutes de jeu? Leur entraîneur Stéphane Mazzala le leur souhaite.
Depuis qu'on est arrivé à Clairefontaine, la vie a basculé. Hein. On est dans le château, on est bien reçu, on est choyé, on est comme des stars. Et on nous dit surtout, profitez, prenez du plaisir. Ok, mais ça veut dire quoi, prendre du plaisir et de profiter? Pour un compétiteur, prendre du plaisir, c'est batailler. Quand ils vont se retrouver sur le terrain, il va falloir qu'ils aient le courage de regarder les joueurs du PSG dans les yeux et de les affronter. Voilà. Et seulement après, je pense qu'ils prendront du plaisir et ils auront un bon souvenir. Si par contre, ils rentrent sur le terrain en se disant « Oh là là, ces joueurs-là que je regarde à la télé, ce sont mes idoles, ce sont les joueurs que j'admire. » Ben, je pense qu'ils prendront un peu moins de plaisir.
Alors, prendre du plaisir ce soir, quand il y a 3 divisions d'écart, voire bien d'autres choses de différence, Hugo, est-ce que vous qui êtes allé au Stade de France hier, vous étiez face à eux, il y avait peut-être moins de langue de bois que d'habitude, mais par contre, il y avait peut-être aussi beaucoup de modestie ?
Un peu trop de modestie, je serais tenté de dire, puisque Stéphane Mazzala, il avait déjà parlé la veille de cette conférence de presse, donc dimanche, en disant que son équipe avait 0 chance de gagner. Il a un peu persisté sur cette voie, en expliquant notamment que ce que pourrait retirer son équipe de cette confrontation, c'est de l'apprentissage. L'apprentissage auprès des grands joueurs du Paris Saint-Germain. Lui-même pourrait apprendre en tant que jeune technicien auprès d'Unai Emery. Alors il parle et effectivement d'affronter, de regarder les yeux dans les yeux les joueurs du PSG, mais on a l'impression qu'il part un petit peu battu d'avance, que pour lui l'important est ailleurs. Or c'est une finale, et une finale elle ne tient que par son enjeu. Je suis pas venu assister, en tout cas je ne vais pas assister ce soir, et je ne veux pas assister à un entraînement de prestige pour les joueurs vendéens.
Dominique, regardez les Parisiens les yeux dans les yeux, vous pensez que quand on connaît les Parisiens, quand on les voit évoluer à la télévision toute la saison, c'est possible?
Non, je crois pas. Je crois que c'est le PSG qui va décider ce soir du curseur. Est-ce qu'ils vont un petit peu gagner, beaucoup gagner, largement gagner? Est-ce qu'ils vont aller jusqu'à l'humiliation, c'est-à-dire dépasser le plus large score qui est de 5-0 pour une finale? Est-ce qu'ils vont s'arrêter à 3,
Saint-Étienne-Nantes 1970, voilà, hein, on a les mêmes références.
Voilà. Parce que l'écart, c'est plutôt un jour, le PSG, il y a pas longtemps, il y a 6 mois, a mis 8-0 à Dijon. Dijon, c'est une équipe de Ligue 1. Donc dans un bon soir, le PSG peut gagner 9-10-0 contre les Herbiers. Ça serait l'écart logique entre une club qui aspire à gagner des champions et qui a le matériel pour. Après il n'y arrive pas, mais ça c'est une autre... mais en tout cas il a les joueurs pour le faire, et puis les Herbiers qui est même pas encore maintenu dans le championnat national grâce à sa victoire contre Laval, voilà, mais ils se battent encore, il reste une journée, ça va se jouer bientôt. Donc regardez les yeux dans les yeux, ça va pas être possible, mais ouais, je me mets à leur place, c'est génial, quoi. C'est génial parce que la moyenne des salaires, c'est 3 000 euros, donc je peux encore me mettre à leur place aux Herbiers. Avec le PSG, j'ai beaucoup plus de mal.
750 000 euros.
Voilà. Et je me dis, c'est génial ce qu'ils vivent, quoi. C'est un rêve.
Vous trouvez ça génial, vous aussi, Philippe?
Oh, c'est une belle aventure, indiscutablement. Après, il y a toujours des gens qui sont un peu critiques et qui disent, ah oui, mais c'est parce que les clubs de Ligue 1 ne jouent pas sérieusement la Coupe de France. Non, il y a eu un hasard de calendrier, enfin de tirage au sort,
oui,
incroyable.
Ils n'ont remporté aucune équipe de Ligue 1 avant d'arriver là.
Ils n'ont rencontré aucune équipe de Ligue 1. Et surtout, Lyon a éliminé Monaco, le PSG a éliminé Lyon et le PSG a éliminé Marseille. Donc à partir de ce moment-là, évidemment, ça...
Ils leur ont ouvert la route.
Ça a complètement ouvert la route. Et puis ce à quoi faisait référence Dominique, c'est quand le PSG joue Dijon, il y a déjà une division d'écart. Une vraie division d'écart, vraiment, vraiment.
Il y a même
vraiment,
une division entre le
monde.
PSG et tous les
donc,
autres, pratiquement.
Donc après tout, qui joue Dijon ou les Herbiers, c'est pas très très différent pour eux. Il y a de toute façon un monde d'écart. Et dans ce sens-là, je pense que à partir du moment où ce sont les Herbiers, qu'il y aura ce côté sympathique, je pense que oui, ce sera une. Je pense que c'est un critère essentiel pour avoir une belle fête au Stade de France.
Chéric, on aura une belle fête. Oui, autrefois, hein. C'était toujours au Parc des Princes. Et ça fait quand même quelque temps que c'est au Stade de France. On aura une belle fête dans ce stade, de par la volonté de ces Herbiers, de finalement, et on les a remarqués parce qu'on sait qu'ils sont arrivés en finale, mais maintenant tout le monde va les regarder.
Ouais, bien sûr. Mais
nous,
de toute façon,
va les regarder les yeux dans les yeux.
De toute façon, il y aura quasiment un virage, alors je sais plus combien ils seront.
20 000.
Hein?
20 000. Environ 20 000 Vendéens.
Donc voilà, on va respecter un peu.
Défilé de bus.
Oui, parti à 7h30 ce matin des Herbiers.
Ouais, non, mais donc il y aura le virage parisien, le virage
en avant
des Herbiers.
De Saint-Denis, de Saint-Jean.
Ils vont.
En avant.
Ils vont surtout réchauffer le Stade de France, peut-être aussi. Hein,
ouais, dit pour froid. La fête sera là, mais il y a.
Fête sur le terrain.
Ouais, je vais mettre un bémol parce que on. C'est une belle aventure, comme tu disais, mais c'est pas non plus l'épopée qu'on avait connue, par exemple, avec une équipe comme Calais, qui, eux, avaient sorti des clubs de L1. On se souvient de la demi à Bordeaux. Non, contre
à
Bordeaux,
Lens, à Lens.
Lens, ouais. Voilà, il y avait une vraie épopée. Et en plus, en finale, on a senti qu'ils pouvaient vraiment faire mal à Nantes. Et d'ailleurs, ils ont perdu de peu. Là, on l'a tous dit autour de la table, l'écart est vraiment disproportionné. Donc, la fête, eh ben, ça va être de regarder le chronomètre en disant, ah, bon, il y a toujours 0-0, toujours 0-0, toujours 0-0. Et à un moment, ça va être la balance.
Vrai. Ouais, mais dans 20 ans, ils retiendront que ça. Ils étaient au Stade de France. Nous, il y a 20 ans, on retient la victoire de la Coupe du Monde. C'était en 98. Mais... eux, dans 20 ans, ils vont dire, on était au Stade de France. Qu'on
mais ça va être super.
C'est incroyable ce qui leur arrive. Alors, certes, c'est des joueurs semi-professionnels ou semi semi amateurs, mais c'est un truc de dingue. Même s'ils n'ont battu aucune Ligue 1, voilà, ils sont là, il faut les féliciter, bravo à eux. Le gardien, on en parle dans Marca aujourd'hui, le gardien des Herbiers, on en parle dans Marca, quoi. les mecs ne savent même pas savoir ce qui leur arrive, quoi.
Non, mais ça va être la fête, hein, bien sûr, c'est un truc super qui leur arrive.
Et justement, un truc super qui leur arrive, c'est ce que dit, eh bien, leur capitaine, hein, Hugo, que vous avez vu hier, Sébastien Flochon.
Tout le monde aimerait être à notre place. Donc moi je parlerais plutôt d'une chance plutôt que d'un piège. C'est une grande équipe avec de grands joueurs en face. Donc comment aborder ce match le plus naturellement possible, même si je suis bien d'accord, une finale c'est un événement exceptionnel. Faudra essayer de pas trop changer nos habitudes et faire abstraction un petit peu de tout ce qu'il y aura autour. Les gens depuis pas mal de temps nous demandent de faire les comptables, combien de pourcents de chance, combien de chances de gagner cette finale. Donc je vais pas vous donner de pourcentage. Après on reste des compétiteurs, donc c'est compliqué de rentrer sur le terrain en ayant déjà perdu, donc forcément il y a toujours de l'espoir.
Toujours de l'espoir, Hugo.
Oui, toujours de l'espoir. Il est un peu plus optimiste, le capitaine. En tout cas, les deux, hein, l'entraîneur et le capitaine, ils s'expriment plutôt bien. Ils étaient plutôt intéressants à écouter hier. Sébastien Flochon, il a 25 ans. Il a été formé à Lyon. Il est passé par le CA Bastia, l'autre club de Bastia. Il a connu le chômage avant de rejoindre les Herbiers. Et ça me fait penser que voir une équipe de nationale, donc de la troisième division, arriver en finale, c'est intéressant quand même, puisque ça met en lumière aussi une autre réalité du football professionnel, puisque le national, c'est un peu l'antichambre du football professionnel français. Ça met en lumière des parcours chaotiques de joueurs qui, à la base, étaient des bons joueurs. Après tout, si on passe chez les jeunes à Lyon, c'est qu'on a des
formés.
Qualités.
Oui.
Mais une carrière de footballeur, ça tient à rien. Du chômage, un mauvais choix, une blessure, un dépôt de bilan. C'est le cas pour celui qui est né au Cameroun, Bongongui, hein, l'ancien comparse de Kylian Mbappé
abondi.
Donc ça met aussi en lumière cette réalité du football qu'on voit moins effectivement quand on parle de Neymar, Cristiano Ronaldo ou Messi.
Mais on peut en sortir, Hugo,
peut-être,
hein.
Compagnon quand même.
On peut en sortir, hein, à la Coupe du Monde 2014, il y avait Giroud, Koscielny, Valbuena qui étaient venus du national.
Et en plus c'est aussi une antichambre de l'équipe de France.
Voilà, donc
Ribéry aussi en son temps.
Ribéry en son temps, donc ça veut dire qu'on peut aussi avoir un parcours, il n'y a pas que la filière classique, quoi.
C'est l'école de la deuxième chance, la Coupe de France, c'est l'ultime chance. On a vu pas mal de professionnels, de futurs professionnels. Il y a Eric Abidal aussi, hein, qui s'était fait repérer par Monaco dans un match de Coupe de France avec contre Saint-Raphaël, enfin bon, peu importe. Et c'est l'occasion de se montrer, et comme tu viens de le dire, la formation des joueurs, c'est pour ça qu'il y a eu autant de surprises dans la Coupe de France ces 15-20 dernières années, c'est que tout simplement, ils ont tous fait les centres de formation. Il y a des joueurs qui se recroisent, hein. On l'avait vu avec certains joueurs de Chambly, un joueur de Chambly qui était dans le même centre de formation que Germain, ils se sont retrouvés. Donc ils sont formés, ils ont le bagage physique, ils l'ont globalement, ils s'entraînent. Alors parce qu'on parle toujours des amateurs, soit de 3e, 4e division, ils s'entraînent à peu près régulièrement, physiquement ils sont enfin voilà, c'est plus les...
Non mais c'est pas à peu près, ils sont pros.
Ils sont pros,
non, mais
voilà,
ils sont pros, aucun ne fait
tous les jours,
fait un métier à côté, voilà. Ils sont pros, ils sont professionnels.
C'est aussi pour ça que d'un côté, donc il y a beaucoup de surprises avec les clubs dits petits, enfin des divisions inférieures, mais il y a plus de massacres comme on voyait avant, des 6-0, 7-8-0. Ça peut arriver de temps en temps, mais il y en a de moins en moins parce que justement l'écart c'est resserré.
D'ailleurs, c'est ce qu'ils redoutent, hein, évidemment, ces joueurs. Ils parlent de valise, la fameuse expression. Ils se demandent combien de secondes, de minutes ils pourraient tenir. Ouais, ce soir. En tout cas, pour le PSG, ça serait une belle manière d'offrir une jolie sortie à Unai Emery, qu'ils ont l'air d'apprécier les joueurs. Dominique, officiellement, c'est ce qu'ils disent.
Officiellement. Ouais. Quand vous lisez l'interview de Thiago Motta dans l'équipe, pas vraiment. Hein.
Non, mais certains autres avaient fait quelques déclarations.
Ah, sont gentils.
Notamment au soir de la Coupe
de
la Ligue.
Sont polis.
Septième titre, ce serait donc des deux années d'entraîneur. En tout cas, pas besoin de motiver ces joueurs, évidemment, quand on écoute Thiago Silva, le capitaine de la soirée du PSG, bien sûr.
Les gens pensent que c'est un match facile, que Paris Saint-Germain, on a déjà gagné. Non, c'est pas comme ça, la vie. Le foot, c'est pas comme ça. C'est différent de toutes les autres choses. Et c'est pour ça qu'on doit être conscient de la difficulté qu'on va trouver ici. Parce que, bien sûr, que c'est une équipe qui va se préparer très bien pour ce match-là. On doit répondre. On doit faire le notre meilleur pour gagner. C'est toujours comme ça. On a parlé avec le coach. Et c'est pour ça que j'ai dit que lui connaît très bien cette équipe-là. C'est un staff qui travaille beaucoup par rapport à l'équipe qu'on va affronter. Et c'est pour ça qu'on va être préparé pour ce match.
Alors, ils sont bien préparés, les Parisiens. On l'imagine, de toute façon. Ils sont un peu maintenant comme des robots, n'est-ce pas, Dominique, en roue libre. Ils ont leur nouveau titre de champion de France. Ils ont aussi déjà gagné 3 fois cette coupe. Alors, moi, j'aimerais que vous... C'est comme, vous savez, en fin d'année, on a des dissertes à faire. Alors, moi, je vous en donne une. On a décidé de vous en donner une. Tout à l'heure. Vous avez une minute d'ici peu.
Écrit ou oral.
Pourquoi les Herbiers vont gagner la Coupe de France ce soir, Dominique?
parce que le PSG va déclarer forfait. Je vous réponds en moins d'une
alors
minute.
Là, oui. Ah, je ne sais pas.
Une épidémie, le jus d'orange, le fameux coup du jus d'orange à 17h à la collation. Là, épidémie, ils sont obligés de faire jouer Ben Arfa, qui a pas joué depuis un an.
Ah, il est sur la feuille de match.
Non, il est pas dans le groupe. Il est finalement pas dans le groupe. Il était dans un groupe élargi de 21. Non, bah, pourquoi? Parce que l'arbitre, siffle les vraies fautes, les vrais cartons rouges. Le PSG finit à, est à 9 au bout de 10 minutes.
Il faut qu'il finisse à 7.
À 7, on arrête le match.
Justement. C'est la seule manière pour les Herbiers de gagner.
4-0.
Non, je suis collé là.
Collé.
Il va falloir que j'aille encore.
Non, parce que d'abord, les Herbiers, qui est une équipe qui joue la relégation, mais c'est l'équipe qui joue le mieux en national, qui a une vraie qualité de jeu. Vous regarderez un des joueurs comme Flochon, le capitaine dont on parlait, Rocheteau, très bon joueur. Ce sont des joueurs qui peuvent jouer.
Kevin Rocheteau.
C'est pas Dominique. Mais
c'est
des joueurs qui peuvent jouer en D2 tous les jours, enfin qui vont sûrement y jouer d'ailleurs très très bientôt, j'imagine. Et c'est une équipe qui a une vraie qualité de jeu, donc j'imagine. Bon, ils vont être complètement dominés, c'est naturel, mais j'imagine qu'ils vont être capables de sortir correctement quelques ballons. Et je pense qu'un bel objectif pour eux, ça peut être de marquer un but. Et ce but peut être le premier. Et si c'est le premier, mais tout d'un coup, on mène 1-0 en finale de la Coupe de France, et on sait jamais.
Et on inverse la tendance.
S'il y a une minute pendant laquelle ils mènent, et sont en position de gagner la Coupe de France, ça serait fantastique.
Oui, il y aurait déjà une ambiance
de folie.
Ça serait
déjà énorme. Ils ouvrent le score.
Même s'ils perdent 5-1.
Ils perdent 5-1. Mais si eux commencent par marquer, c'est-à-dire qu'ils sont, le match arrête.
Là, on s'en rappellera.
Et ils ont été en position de gagner la Coupe de France, ça serait merveilleux.
Shérif.
0-0 à la mi-temps. Bien défendu pendant 45 minutes. Ils n'ont pas pris de but, donc en face, ça va douter, forcément. Les Herbiers jouent l'engagement parce que voilà, c'est
en deuxième côté physique.
Voilà, maintenant on peut tirer direct. Non, mais tout comme on tire direct, voilà, trappe ce trou et puis c'est bon, 1-0, puis voilà, il tire
trappe ce trou, ça peut rêver ça. Ça c'est pas que contre les Herbiers hein.
J'en parle en connaissance de cause.
Donc voilà, ce serait un scénario amusant hein. Hugo, préparez vos
mais
fiches
c'est marrant,
parce
on voit que du 1-0, on voit pas du 2 3 4-0 hein.
Je prépare mes fiches sur les joueurs des Herbiers parce qu'ils vont monopoliser le ballon, c'est ça.
Ouais, t'as raison.
Vous avez entendu que tout à l'heure il y en a qui pronostiquaient 2-1 hein, quand même. Donc ça peut être amusant. Pardon Hugo, oui.
Ah oui, alors juste une chose, Shérif parle d'un 0-0 à la mi-temps. Ils se sont entraînés à bien défendre, les joueurs des Herbiers, notamment grâce à un entraîneur de handball, l'entraîneur du club de handball de Nantes, qui a été appelé à la rescousse, entre guillemets, qui a été appelé en tant que super conseiller par Stéphane Mazzala.
Ils sont dans le final four de la Ligue des Champions.
Exactement,
le
club de Nantes, c'est un demi-finaliste de Ligue des Champions.
Donc ils vont jouer avec les mains, Hugo, c'est ça?
Non, mais en tout cas, ils apprendront à bien défendre parce qu'au handball, on défend souvent et de manière collective.
Ce qui fait attention quand même ce soir, c'est une équipe de foot en face.
Effectivement, mais alors l'entraîneur de Nantes, il est quand même plutôt averti, puisque en demi-finale de la Ligue des Champions de handball, il affrontera également le Paris Saint-Germain. Donc après tout, voilà, ils sont unis pour la même cause.
La belle récompense quand même pour ces joueurs qui disputent la finale de la Ligue de la Coupe de France. Alors, il n'y a pas de place comme par exemple en Italie. Non, mais je pensais à la qualification.
Pour le finaliste.
Voilà, le finaliste peut être récompensé.
C'était avant.
Voilà, d'une place en Ligue Europa, ce qui n'existe plus. Par contre, il y a des sommes rondelettes. Et c'est vrai que, alors, pour le vainqueur, ça serait 2,4 millions, donc millions d'euros pour le vainqueur. Mais pour le vaincu, c'est quand même 1,5 million. Et 1,5 million, c'est pratiquement...
Plus des recettes de 40 000 spectateurs à la Beaujoire les deux derniers tours. Pour les Herbiers, c'est plus de 2 millions d'euros de rentrée. Alors après, il y a beaucoup de primes de joueurs.
C'est l'équivalent d'une année de budget.
C'est plus d'une année de budget.
Plus les joueurs dont parlait Philippe, qui vont se faire repérer pour aller en Ligue 2 l'année prochaine, qui vont peut-être avoir un petit transfert, même modeste. Donc c'est tout bénef pour eux. Pour le club et pour les joueurs qui vont être draftés, entre guillemets, et jouer repérés, qui vont jouer en Ligue 2 la semaine prochaine.
En tout cas, Hugo, vous allez donc commenter ce match ce soir. Vous allez nous faire vibrer au match de France avec Christophe Jousset.
On va espérer, en tout cas, voir des buts. Et, alors, c'est pas du tout question de prendre parti, mais on espère ne pas avoir des buts que dans un sens.
Ils vont changer à la mi-temps, c'est l'avantage.
C'est vrai. Il y aura des buts dans toutes les directions.
Il peut y avoir 10-0, mais dans deux buts différents. Mais
en tout cas, je crois qu'on en a bien parlé là, à l'instant. On est certain d'assister à une belle fête.
Oui,
et c'est déjà une très bonne raison d'écouter RFI tout à l'heure. Et vous y serez en plus.
J'y serai et je vous écouterai en même temps. Comme ça, j'aurai de double plaisir.
Trop d'honneur.
Magique. Donc, à partir de 21h, 19h en temps universel. Et évidemment, nous, dans Radio Foot, nous serons en sortie de match. De ce match, donc, entre les Herbiers et le Paris Saint-Germain, finale de la Coupe de France 2018. Continuons un petit peu sur la Coupe de France, messieurs, mais plutôt sur l'historique autour de cette compétition. Chérie, vous avez écrit un livre dont on avait déjà parlé hein, sur l'antenne, qui s'appelle Coupe de France. Alors, c'était le centenaire 1917-2017. Vous dites même c'est un deuxième centenaire cette année.
Oui, parce que elle avait commencé à l'hiver 2017 pendant la Première Guerre mondiale. La finale avait eu lieu en 2018. Donc, il y avait une petite bisbille entre les puristes. C'est quoi? Est-ce que le centenaire...
Alors, c'est la centième édition. Le centenaire ou enfin non,
c'est
on n'en est pas à la
centième édition.
On en est quand même à la centième édition. Il n'y a pas eu d'interruption pendant la guerre, la deuxième guerre mondiale.
Non, c'est la seule compétition qui ne s'est jamais arrêtée, à la différence du championnat.
Donc là, c'est la 101e édition. Non.
Non, parce que la première finale, c'est 1900.
J'ai toujours un problème avec les écarts. C'est ouais, aussi, il faut que je refasse le bac.
1918, 2017
bientôt.
Ça arrive, Philippe, si vous voulez.
Non, mais ça fait 100 ans. Mais pour moi, c'est 101 éditions.
Si, oui, il y a une.
Ah, ouais,
Bastia.
J'ai quelques restes.
Voilà. En tout cas,
bien sûr, il manque 92, bien sûr.
Elle n'a pas été attribuée.
Exactement.
Voilà, c'est ça.
Bon, en tout cas, le roman du centenaire, Shérif Guémour, aux éditions Solar. Alors, effectivement, on parle de ces histoires de petits poussés, de temps à autre. Hein. Il y en a eu ces derniers temps. Le dernier en date, c'était Quevilly, on s'en souvient, de Normandie, qui s'était retrouvé en finale face à Lyon.
De Rouen.
Exactement, dans le bassin normand, on va dire. En tout cas, cette compétition, on a le correspondant du journal anglais The Guardian, qui écrit aujourd'hui notamment sur cette compétition, en saluant une épreuve finalement où il y a 8000 clubs sur le départ, et notamment quand il dit 8000, il dit sur 5 continents, parce que la France ayant ces dom-tom, ça ratisse très large. Est-ce que c'est une originalité et aussi quelque chose de positif pour vous, selon vous, Shérif?
Oui, parce que c'est l'ensemble du football français qui est représenté, c'est-à-dire tous les clubs. Ce qui est différent de certains pays, justement, comme l'Angleterre, qui est beaucoup plus élitiste. Il n'y a pas tous les clubs amateurs.
Ça commence beaucoup plus tard. Hein. Il faut un certain niveau.
Oui, oui. Et c'est pas.
Alors qu'en France, n'importe quel club peut s'inscrire.
Voilà.
C'est la 4e division de district.
Club
on peut s'inscrire. Aucune chance, évidemment, d'aller très loin, mais on peut s'inscrire.
Quand on est affilié à la FFF, bon, il suffit de payer un petit écho. Bon, c'est une petite participation financière qui est pas énorme. Enfin, bon, faut la payer quand même. Je dis ça parce que Calais avait failli ne pas la payer. Ils avaient des problèmes financiers quand l'année où ils sont arrivés en finale.
Ça aurait été dommage.
Non, donc voilà, c'est dans l'esprit entre guillemets républicain de la France d'avoir organisé cette compétition qui englobe tous les clubs. Et c'était aussi parce que la première vraie compétition de type national, c'était la Coupe de France et non pas le championnat. Donc, quoi de mieux que d'associer tout le pays à une époque où on était encore en Première Guerre mondiale. Donc, il y a aussi les racines un peu d'une certaine union nationale, parce que, bon, elle a commencé, une fois de plus, pendant la Première Guerre mondiale. Et c'était aussi, en plus, avec le décorum, enfin le prestige républicain, le président de la République, la Marseillaise, le salut aux joueurs, la remise de la coupe, c'était aussi parce que la Troisième République était relativement jeune. Donc, c'était une compétition qui a aidé aussi, un peu comme le Tour de France, à rassembler, une fois de plus, la France du sport et puis la France des régions. C'est pour ça que moi je dis souvent c'est la Coupe de France, c'est plutôt la Coupe des France.
Oui. Philippe, vous aussi vous trouvez que ce, finalement ce mélange, parce que vous parliez d'une équipe de 4e district, des fois il y a des jeunes hein, qui font partie d'équipes comme ça très modestes d'une région française et puis qui vont arriver en 64e de finale mais qui va les faire rêver quand même parce que on élimine à chaque fois en un seul match, on élimine les autres.
Oui, c'est pour ça que j'aime pas trop le discours qui en France qui consiste à dire ah oui mais maintenant avec la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, ça n'a plus d'intérêt pour les pros. C'est pas vrai du tout. Le prestige est toujours là, il est intact. La compétition commence en septembre, elle commence début septembre pour les petits clubs amateurs.
Un peu avant,
pour les tout petits.
Les tout petits.
Je commence en septembre.
Ouais. Non, mais c'est vrai,
J'étais une star, donc je commence en septembre. Vous voyez ce que je veux dire. Deuxième tour, peut-être. Bref. Il y a cette passion. Cette passion, elle est réelle. Alors, il est vrai que pendant l'hiver, il y a des moments où les deux compétitions se croisent un peu. Et c'est dommage. Je trouve que la Ligue anglaise a mieux réfléchi à la finale.
Calendrier.
Ouais, à son calendrier en faisant la finale très tôt. de manière à ce qu'il n'y ait pas vraiment de confusion dans l'esprit. Cette année, elle était très tôt et je trouvais ça très bien.
Rappelons-le, la Coupe de la Ligue ne concerne que les équipes professionnelles.
Donc 43 clubs seulement.
Ligue 1, Ligue 2 et deux clubs de national.
Et on retrouve finalement pratiquement toujours les mêmes affrontements au bout d'un moment.
C'est la Coupe de la Ligue qu'il faut supprimer, c'est pas la Coupe de France.
Sauf que c'est la plus lucrative.
Oui, mais bon.
Il n'y a pas beaucoup d'écart.
Franchement,
celle qui fait partie
du patrimoine français, un peu comme le Tour de France, la Coupe de France, c'est l'épreuve qui rassemble tous les Français. Puis chaque année il y a des surprises, on a beau la connaître, chaque année c'est toujours pareil, chaque année il y a des renversements de situation. Franchement, ça serait la France, le championnat de France, le football français sur la Coupe de France, c'est pas possible quoi.
Et Dominique, justement, c'est aussi peut-être une chance pour le football amateur qui finalement apparaît si peu, surtout maintenant où les retransmissions de football sont presque permanente sur du football professionnel. Finalement, c'est un coup de projecteur aussi sur ces petits clubs qui font beaucoup d'efforts, qui jouent les dimanches, des fois sur des terrains pas...
Sur des chaînes en clair, parce que le football en clair aujourd'hui, entre guillemets gratuit, très difficile à trouver en France et en Europe, où il y a toujours des chaînes à péage. Donc effectivement, c'est une manière de briller. Ils ont toujours leurs photos dans le journal, le petit passage à Téléfoot le dimanche. Non, ça, franchement, c'est une tradition et ça serait dommage de la galvauder.
Shérif?
Oui, tout à fait. Mais faut pas oublier de toute façon que les clubs amateurs, c'est l'antichambre du football professionnel. Ils viennent tous de là. Et ça va dans les deux sens.
Mais Shérif, il y a un monde aujourd'hui entre... Il y a plus beaucoup de professionnels qu'on voit le dimanche revenir dans son club.
Ah, il y en a quand même. Justement,
c'est assez rare quand même. Ouais,
non, oui, c'est rare parce que bon, ça dépend s'ils finissent.
Les centres de formation commencent de plus en plus tôt.
Oui, voilà.
C'est quand les joueurs commencent à aller dans des centres de formation, c'est-à-dire des clubs déjà pro à 12. Voire avant, même parfois il y a de la préformation à 8-9 ans, mais enfin bon, il faut
habiter, la ville. Quand même, Philippe, du coup, le football professionnel et le football amateur, malheureusement.
Oui, bien sûr, forcément.
Donc cette compétition-là, elle est là comme un petit rappel.
Oui, c'est aussi une autre philosophie, non? Peut-être aussi une mise en valeur d'une autre philosophie. Quand on voit les petits poussés, entre guillemets, qu'ils arrivent, que ce soit de Nîmes, la fois où ils avaient rencontré Auxerre, on avait eu donc cette fameuse épopée calaisienne, on a l'impression que il y a quelque chose de plus authentique.
Oui, c'est clair. Et je pense
dans
même que
la compétition.
Moi, quand je suis envieux, quand je vois les Anglais, effectivement, la Cup a un historique encore plus fabuleux, bien sûr, que la Coupe de France, mais n'a pas ce côté n'importe qui peut y participer,
ouvert.
C'est vrai. Par contre, ils ont un truc génial, la Cup, c'est que tous les tours ont lieu le week-end.
Ouais.
Tout le long de la compétition, ils sacrifient des journées de championnat qui vont être disputées en semaine pour que les matchs aient lieu le week-end. Et du coup, quand vous avez un club amateur comme les Herbiers, c'est génial parce que quand ils jouent le mardi et autres, bon, à partir des quarts de finale, ok, on va y aller. Mais des huitièmes de finale, des 16e de finale.
Avant, c'était comme ça, Philippe, hein. Avant, c'était comme ça.
Oui,
jusqu'à
oui.
ce que la fédération, sous le poids des professionnels, décide de mettre les tours de coupe en semaine et garder le championnat, le feuilleton du championnat au week-end.
Au moins, on pourra aller jusqu'en 16e ou 8e.
C'est ce que je vous dis que le
tant qu'il y a des clubs amateurs.
Oui, mais malheureusement.
Cette année, c'était toute l'année.
L'amateur est souvent
il a de moins en moins
de poids au sein des instances.
Ouais. C'est pour ça que les deux coupes se paralysent parce que les matchs ont lieu en semaine, que ce soit la Coupe de la Ligue ou que la Coupe de France. Et des fois, on est perdu, on ne sait même plus dans quelle coupe
on est.
Et là, on voit aussi qu'on a mis une finale quand même de Coupe de France un mardi soir.
Oui, mais là, c'est un jour férié.
Jour férié, effectivement.
Peut-être que des gens travaillent le lendemain quand même.
Parce que c'est année de Coupe du Monde, mais ça avait été quasiment acté, c'est qu'en fait, la finale de la Coupe de France devait clôturer la saison de football en France. Sauf que bon, il y a la Coupe du Monde,
Ça s'est un peu bousculé cette année, effectivement.
Cela dit, on aurait pu handicaper les clubs étrangers, puisqu'on sait que le PSG va être en finale de la Coupe de France, et qu'il n'y a pas beaucoup de Français, on aurait pu mettre...
C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont mis un peu plus tôt.
On aurait pu mettre la Coupe de France le plus tard possible pour gêner les adversaires de la Coupe de France. Non, je plaisante.
En tout cas, ce soir, le président sera aussi dans les tribunes, comme le veut la tradition, et puis il y aura Neymar à ses côtés. Neymar, le joueur du Paris Saint-Germain.
C'est lui qui remet la Coupe ?
Qui est le plus connu des deux ?
C'est Neymar qui remet la Coupe ou...
Ah, Macron, il pourrait commencer à être en compétition, hein, parce que
il a moins de followers, quand même.
Ouais, un peu moins, mais il se promène beaucoup. On va passer à une coupe. Alors, c'est pas la Coupe de France, mais là, on va évoquer une compétition parallèle, et c'est la Coupe d'Italie.
Radio Foot International. Annie Gasnier.
Toujours Toujours sur RFI, dans Radio Foot International, avec Philippe Doucet, Dominique Sévrac et Chérif Guémour, pour évoquer, eh bien, cette fois la finale de la Coupe d'Italie, qui aura lieu à Rome, là aussi dans la capitale, dans un stade plus que symbolique. Alors, sans aucun club romain, mais avec un face-à-face, alors on va dire presque vintage, hein, parce que ça rappelle des souvenirs de grande époque pour, en tout cas, l'un des deux clubs.
Finale de Ligue des Champions, il y a 15 ans.
Exactement, là, il s'agit de la Juventus, l'éternel en finale, triple vainqueur de la compétition, et puis le Milan AC qui n'a pas remporté cette coupe depuis 2003. Alors la vieille dame a disputé 18 finales, elle a remporté 13 coupes et elle continue à tout écraser en Italie puisqu'elle va vers son 7e titre de championne, alors que le Milan AC lui a beaucoup dépensé pour construire son équipe cette année et finalement il disputera sa 13e finale, il en a déjà 5 dans l'armoire. Est-ce que c'est une mission impossible pour les Rossoneri?
Ça me paraît impossible,
Dominique.
Quand je vois ce qu'a fait la Juve.
Son sixième du championnat.
Ce qu'a fait la Juve en parcours de Ligue des Champions, c'est j'ai vraiment vu une équipe de coupe être capable d'aller mettre deux buts à Tottenham après avoir été menée 2-0. Allez, retour, mais bon, voilà, ils étaient en difficulté après le match aller, ils mettent deux buts en trois minutes au retour. Ce qu'ils ont fait au Real Madrid de mettre trois buts, alors après il y a le penalty contestable, penalty pas penalty, mais ils mettent trois buts au Real Madrid. Je pense que personne n'a fait ça cette saison en Ligue des Champions. Donc voilà, c'est une équipe de coupe par essence qui a une capacité de résistance. Alors le mot à la mode aujourd'hui, c'est résilience. Voilà, j'aime pas trop ça, mais donc ça me paraît compliqué pour la Sémi.
Compliqué, Chérif ?
Oui, de toute façon, ils ont perdu deux fois. Ils se sont affrontés deux fois en championnat.
Oui, ils ont perdu effectivement les deux matchs.
3-1 et 2-0. Et le truc, justement, c'est marrant parce qu'on peut faire un parallèle avec le PSG. La Juventus, c'est exactement ce que le PSG n'est toujours pas. C'est-à-dire maîtresse chez soi, à domicile, en Italie, ce que fait le PSG. Mais comme tu disais... À l'échelon européen, ils sont là, ils sont bien là, ils sont encore là. C'est une équipe qui impressionne. Malheureusement, pas le PSG. Et c'est vraiment, quand on les met en parallèle, c'est exactement la dimension que le PSG n'a pas encore. Quand on voit la Juventus, il y a de fortes chances qu'ils vont gagner. Ils sont largement favoris. Et eux remportent leur coupe nationale, leur championnat.
C'est pas la même histoire, Chérif, hein. Il y a un peu plus de vécu, d'expérience du côté en termes de club, de vécu de club.
Oui, bien sûr.
Oui, non, il y a quelques années supplémentaires aussi d'existence.
Moi, c'est la grande.
Ça s'appelle la vieille dame.
Oui, je fais une projection comme modèle à suivre, tu vois, avant de se projeter comme le Barça, le Real. Déjà, imitons la Juve. La Juve, qui est bien maîtrisée.
Le PSG est jeune et dans son histoire et dans son actionnariat.
Oui, mais
laissons-lui un peu de temps. Moi, je ne suis pas le défendre spécialement.
C'est d'abord, c'est quand même pas si jeune que ça, le PSG. Puis ces dernières années, ils jouent régulièrement la Ligue des Champions, mais ils ont toujours pas montré cette force, tu vois. C'est tout. C'est ça. C'est cette force qui fait que tu veux respecter à domicile et à l'échelon européen. C'est juste ça. Sinon, voilà. Une favorite. Hein.
Aucune chance pour le Milan AC.
Le Milan AC, c'est pas les Herbiers quand même. Je sais pas, vous en parlez comme si c'était cuit. Bon, oui, c'est pas la peine.
Non. Statistiquement.
Moi, je pense que la Juve a fini quand même assez difficilement cette saison. Ils ont bien tenu
sous pression par Naples aussi.
Absolument. Ils ont souffert. Franchement, la libération, quand ils ont gagné à l'Inter, en revenant d'on ne sait où, le titre était en train de basculer pour Naples. Bon, ils vont être le champion. Comme d'habitude, en Italie, ils restent les maîtres chez eux et c'est une équipe qui a été au niveau de ses devancières et des autres. Mais je pense que dans une fin de saison, un match comme ça peut tout à fait basculer autrement, même si le Milan AC me fait pas une impression très positive. Le club lui-même est pas dans un très bon état, l'équipe non plus. Ils sont quoi, sixième championnat?
Sixième actuellement.
Ils vont être à peine européens.
La Fiorentina qui peuvent passer
exactement.
Devant.
Donc,
ils sont limite pour l'Europe. Voilà.
Il peut finir 9e.
Oui, alors
s'ils gagnent la coupe, là ils seront européens.
Oui, et ça serait d'ailleurs une bonne opportunité pour eux. Alors, ils se battent effectivement pour cette 6e place qui leur ouvrirait les portes de l'Europe, alors de la Ligue Europa. Et un fait intéressant, c'est que Gattuso, l'entraîneur qui était arrivé en novembre, voilà, après le départ de Montella. Qui lui s'est retrouvé en Espagne, et bien après le départ de Montella, Gattuso finalement a fait plutôt du bon travail. En tout cas, il a plu au Milan assez. Alors, on le voit sur les bords du terrain, hein, c'est extrêmement démonstratif et extrêmement expansif. Mais surtout, eh bien, Gattuso, il a l'air d'avoir sa méthode bien à lui. Et écoutez-le évoquer alors le jeune joueur qui avait été présent. présenté, alors il l'est encore, hein, mais comme le grand espoir du football italien, voire marocain, puisqu'il a double nationalité. Il s'appelle Hachim ou Hakim Mastour. Il ne cessait de décevoir, il n'a que 19 ans. Mais écoutez comment Gattuso l'a secoué pour réussir à l'utiliser.
On a beaucoup parlé, lui et moi. Je l'ai menacé car il est devenu plus célèbre grâce à ses vidéos que grâce à ses talents de footballeur. Vous voyez encore des vidéos circuler sur le net, vous ? Répondez-moi. Non, non, on est bien d'accord. Depuis 4-5 mois, plus rien. Eh bien, je vais vous dire pourquoi il s'est amélioré ces derniers mois. Parce que je l'ai menacé de lui péter les dents s'il ne cessait pas son cirque. Cela aurait été tellement dommage, non ? Du coup, il s'est entraîné avec nous ces derniers mois avec beaucoup de professionnalisme. Il a bien travaillé, j'ai vu de l'engagement, de la passion même. Il a manqué un train à ses tout débuts, mais rien n'est perdu. Il n'a pas 50 ans, il n'en a même pas encore 20.
Bon, c'est en Italie, on a parfois recours à des méthodes un peu musclées.
Pédagogie frontale.
Effectivement, il a vu quelques films de Martin Scorsese, hein, visiblement.
On dirait, hein.
Mais alors, soit il le pense et c'est pas forcément la bonne communication d'un entraîneur de dire ça. C'est comme un éducateur aussi, un entraîneur. Soit il veut simplement
c'est
dire.
C'est du deuxième degré, peut-être.
Oui,
Dominique,
et donc
hein,
c'est une manière
film,
de. Voilà,
à l'italienne.
C'est une manière de dire qu'il a de l'autorité. Voilà, bon, ça mange pas de pain.
Qu'il peut-être aussi remettre des brebis égarées dans le bon chemin.
Oui, c'est beaucoup ça le métier d'entraîneur aujourd'hui, hein, les exercices à l'entraînement, leur apprendre à frapper, tout ça, tout le monde peut le faire. C'est beaucoup gérer les hommes, gérer les égos. On voit que Paul Pogba, par exemple, s'est perdu un petit peu à force d'être sur les réseaux sociaux.
Et à la Juve, il se perdait beaucoup moins.
Parce que
quand on est en Italie,
plus fort peut-être.
Quand on est en Italie, qu'on a des vrais entraîneurs au-dessus de soi, parce que l'Italie, c'est quand même le pays des entraîneurs. C'est vraiment, on verra si Gattuso a une carrière. S'il est capable de faire une carrière longue et à la hauteur de ses devanciers, c'est un pays d'entraîneurs incroyables. C'est vraiment le pays du football, c'est l'Italie.
C'est la tactique. Lippi.
Ouais.
Non, puis après, Gattuso, c'est Gattuso. Hein. C'est ce qui a fait sa réputation. C'est un chien sur le terrain. C'était aussi un chien d'entraînement.
Quand il dit je vais te péter les dents, à mon avis, il est crédible. Il y en a qui sont pas crédibles. Lui, il est crédible.
On peut le croire. Non, mais c'est ce qui a fait sa réputation. Mais même à l'entraînement, il était dur. Hein. Il y a eu des accrochages. Hein.
C'est à son image, donc.
Ouais,
hein.
C'est à son image et tout. Après, bon, c'est une méthode de management. Mais on fera les comptes. À la fin de la saison. Par contre, c'est vrai qu'il a une dimension charismatique qui fait penser un peu à Paolo Conte. Donc peut-être que ouais, il peut tirer vraiment.
Et oui, c'est un shérif.
Antonio Conte ou Paolo Conte ?
Allez, Antonio Conte.
Paolo Conte, il fait du piano.
J'écoutais ça hier. Tu vois le lapsus.
D'accord.
Viens, tu vois, j'écoutais ça hier. Viens comme me.
Paolo Conte, il offre. Paolo Conte, il offre des gelato à limone. C'est pas pareil. C'est un peu plus sympa que de péter les dents, quoi.
C'est quand même différent. Sur un match, il peut les secouer et puis bon.
Non, mais Chérif, c'est pas que sur un match quand même, parce que sans doute que le Milan AC, on se souvient du recrutement de l'été de Bonucci et tout ça. Ouais. Et finalement, après, ça a fait un peu flop, ouais. À tel point que quand il est revenu, bon, s'ils arrivent à être en plus en Ligue Europa, c'est que le Milan AC aura pas tout à fait loupé.
Il a maintenu. Mais c'est juste pour l'instant, ils sont en première du championnat. Entendu. On va attendre parce qu'ils peuvent finir 9e. Et là, c'est plus la même histoire.
Non, mais quand l'Italie a maintenant 4 places en Ligue des Champions, 4 places de qualification directe. Vous doutez bien que l'Inter et le Milan AC, quand ils ont vu ça, ils se sont dit, bon, ben, ça y est, c'est le moment de revenir.
Exactement.
Ils y arrivent
péniblement.
Même pas tout à fait, l'Inter peut-être, mais ils y arrivent
L'Inter
pas.
S'en sort un peu mieux quand même.
Un peu mieux, oui, mais enfin, c'est quand même très délicat pour ces deux
énormes
clubs.
L'Inter a été un moment premier du championnat. Et
beaucoup de changements d'actionnaires ces dernières années chez ces deux clubs. On avait vécu sur deux figures, Berlusconi pour l'AC Milan et Moretti pour l'Inter. Et voilà, il y a eu beaucoup de changements d'actionnariat, des Indonésiens,
il n'y a plus aujourd'hui de directrice.
Là, c'est Milan, je ne sais même plus qui est véritablement l'actionnaire.
C'est chinois, mais.
Je ne suis pas exactement sûr.
Oui, c'était pas. Déjà, on se souvient du feuilleton, hein, combien de temps Berlusconi a mis à vendre ce club.
Il veut revenir maintenant. Il part jamais vraiment.
Maintenant qu'il a retrouvé sa jeunesse.
Il la retrouve chaque semaine.
Ça vient de quelques culs.
Non, mais il est revenu en politique, donc il va revenir en foot. Ah ouais. Et inversement.
Non, mais c'est vrai que c'était des clubs de famille.
Ouais. Et oui.
Il y a eu Berlusconi père avant.
Effectivement,
il y a
les
eu
actionnaires.
Père, il y a eu tout ça, la Juve.
La Juve,
Et c'est vrai que
Ça manque de capitaine,
c'est quand même
en fait,
des mauvais, c'est quand même pas des très très bonnes références, des très bons exemples.
C'est le foot
que ces investisseurs étrangers qui en Angleterre ou autre s'effacent complètement derrière des managers, des directeurs généraux avec respect. Et en Italie, on a l'impression qu'ils font n'importe quoi. C'est très très, c'est étrange. Comme quoi, il faut que les clubs inspirent eux-mêmes leur respect par leur histoire et autres pour que les actionnaires y obéissent.
Et du coup, l'Italie n'est pas en Coupe du Monde.
Il y a par exemple.
Il y a un petit lien.
Oui, il y a un petit lien.
Et justement, d'ailleurs, l'Italie, il y a des rumeurs. En tout cas, c'est ce que rapporte la presse d'Italie, hein, comme quoi ça serait finalement Roberto Mancini qui prendrait la sélection italienne.
Des trois candidats, il y avait Ancelotti, il veut retrouver un club. Luigi Di Baggio, l'intérimaire, bon, il était censé rester intérimaire. Hein, donc, ça paraît logique que cette course-là ait été gagnée par Roberto Mancini, qui a une carte...
Qui ne prenait pas de club. Hein, il était dans l'attente.
Voilà, qui a une carte de visite. Après, je sais qu'en Italie, il n'est pas très très apprécié. Il a pas le...
non.
Philippe parlait beaucoup des entraîneurs italiens, ceux qui ont la cote aujourd'hui, c'est Ancelotti.
Voilà, on a l'impression que ceux qui ont la cote ne veulent pas prendre la sélection.
Ranieri et Mancini ne sont pas deux entraîneurs italiens énormément appréciés dans leur pays.
Le problème est le même dans tous les pays. Un poste de sélectionneur, c'est beaucoup, beaucoup moins rémunérateur et beaucoup moins intéressant qu'un grand club de Ligue des Champions. Si vous entraînez un club qui est capable de gagner la Ligue des Champions, vous avez une équipe de niveau très sensiblement supérieure à une sélection.
Oui.
Vous ennuyez moins qu'avec une sélection qui, en plus, évidemment, il y a un match joué 3 mois. Ça, c'est autre chose.
Italie,
c'est pas le même métier.
Là, il faut penser seulement à 2022.
En Italie, on prend plus de coups aussi.
Bah, 2020, il y a l'Euro.
Être sélectionneur de l'équipe d'Italie, surtout aujourd'hui, parce que là, ils sortent quand même d'un désastre. Ils se sont pas non plus tous précipités pour prendre le poste.
Mais à part Conte, dont on se souvient, par exemple, Prandelli, on sait plus où il est. Ventura a été viré.
C'est pas très payé. Quoi. Il faut revenir à l'aspect finance qui est quand même important.
On verra, on suivra ça. Matteo Cioffi nous dira si si finalement c'est Roberto Mancini qui gagne. En général.
Je voudrais dire que j'espère que en fait il va se reprendre parce que bon, quand on arrive fraîchement dans le football, qu'on n'a pas l'expérience, je pense qu'il faut rester prudent.
Du calme.
Jean-Michel Aulas a parlé d'une attitude très agressive de la part de l'Olympique de Marseille.
Je trouve personnellement qu'on a une attitude professionnelle. Voilà, c'est différent d'une attitude agressive.
Arrêtez même pas que je m'énerve. Je vais me débrouiller sans vous.
Écoutez, quand on attaque l'Olympique de Marseille, quand on attaque mes joueurs, quand on attaque mes dirigeants, quand on m'attaque moi, on attaque l'Olympique de Marseille. Donc on est là, on répond, on est présent.
Du calme, mon ami, dominez-vous.
Ça me désole surtout. Ça me désole de la part de gens qui sont des gens responsables, puissent péter les plombs et tenir des propos qu'ils pourraient regretter si un jour il y a de graves incidents dans un stade. Voilà, c'est tout.
Du calme, Félix, du calme. Allons, du calme. Hein,
voilà, on va aller faire cette finale à Lyon. Mais bon, on va pas tout casser, on va tout casser sportivement et on va enflammer ce stade, mais tout dans le respect.
Nous n'en sortirons pas, Astérix.
Alors, est-ce qu'on va en sortir de cette bataille qui est déclarée, de cette hache de guerre qu'on n'arrive pas à enterrer entre ces deux clubs olympiens, deux clubs français qui se déchirent, s'invectivent, s'attaquent pour... Shérif?
Faut revenir d'abord à l'origine de la montée aux extrêmes, la montée vers les périls, peut-être.
La montée verbale. Alors,
ça a commencé. Oui, c'est d'abord
le match.
Ça a commencé dans
le 18. Voilà, c'était
le 18 mars dernier.
Voilà,
allez-y.
18 mars. Donc, Lyon va gagner à Marseille.
Dernière minute,
évidemment. Ensuite, il y a une altercation.
Dans le couloir, dans le vestiaire.
Mais déjà, à cette époque, il y avait déjà des tensions, évidemment, pour la place qualificative pour la Ligue des Champions. On connaît Aulas. Aulas, quand il est sur la défensive, on ne l'entend jamais. Et quand il peut influer sur les instances, faire pression sur les clubs adverses, leur faire perdre leurs moyens, c'est le champion. À coup de tweets, à coup de déclarations et tout. Malheureusement, à la fin du match, il y a ces fameuses altercations. Ça va passer en commission de discipline. Là.
Non, mais ça y est.
C'est passé hier. Donc voilà,
l'appel a été fait apparemment. Il n'y aura pas d'autre appel.
Et voilà, donc il y a eu cette violence. Et toujours avec la rivalité sportive pour la fameuse qualification en Ligue des Champions. Or, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'entre-temps, Lyon s'est fait sortir de l'Europa League et Marseille est arrivé en finale. Et c'est là que ça s'est compliqué. C'est que là, on arrive. Les provocations de Aulas, auxquelles au départ, Héro avait répondu et tout, et c'est normal, parce que c'est l'un des premiers présidents qui ne se laisse pas faire, qui répond à Aulas, alors qu'habituellement, les gens ils restent un peu sur la défensive. Non, Nasser ne dit jamais rien.
Marseille, il y avait eu Pape Diouf, il y avait eu...
C'est
une tradition.
Tu vois ce que je veux dire? Mais là, c'est
Aulas contre Marseille, c'est une tradition.
Moi j'irais même que quand tu es président de Marseille, pour que tu puisses exister, il n'y a qu'une chose qu'il y a à faire. Bon, attaquer le PSG, c'est plus possible. Parce que quand on on est à 25 points.
Mais tout ça, ça a été décuplé.
Il faut attaquer Aulas. Voilà. Sinon, t'es pas président de Marseille. T'es pas légitime.
Mais tu veux le passeport, faut attaquer Aulas.
Tout ce qui a, tout ce qui a décuplé, cette électricité, c'est justement que Marseille se retrouve en finale.
Et oui.
Et là, ils le font savoir.
À Lyon.
Oui, alors on a entendu hein, juste après la finale tous ces supporters qui disent « Olas, on arrive, va tout casser chez toi » et tout. Alors c'est pour ça qu'on entend Adil Rami dire
même les joueurs chantent dans le vestiaire la chanson, mais avec plus d'humour parce que Rami a été bien.
Exactement, c'est-à-dire on veut tout casser.
Les supporters n'ont pas d'humour.
Sportivement, voilà.
Parfois les supporters prennent tout au premier degré.
Est-ce que c'est un danger pour vous par rapport à cette finale?
Non, parce que c'est un événement UEFA, donc on va l'expliquer. Les dirigeants marseillais qui n'ont jamais de toute époque depuis Tapie n'ont jamais interrompu le lien avec les supporters. Alors parfois ils se distancent ou le Berlou Dreyfus. Là, Jacques Henri Hérault a réussi à retisser le lien. Donc il faut expliquer calmement aux associations de supporters que c'est un événement UEFA, que celui qui sera sanctionné c'est l'OM s'il y a des débordements, celui qui paye c'est l'OM si on arrache des sièges, si on casse, si on craque des fumigènes, si on envahit le terrain, si on fait des bêtises au parc Groupama Stadium, ce sera l'OM qui paiera la facture et les conséquences plus tard par l'UEFA qui est en général extrêmement sévère.
Ça c'est vrai. Avant le match et après le match, ou alors même quand
c'est un problème d'ordre
public.
D'ordre public, s'ils se battent place Bellecour à Lyon, c'est pas l'OL ça.
D'accord, mais ça peut dégénérer quand même.
Ça peut complètement dégénérer.
Et je pense que les supporters lyonnais ils les attendent.
Malheureusement.
Vous, Philippe, vous pensez que c'est dangereux et que ça brouille les pistes?
Non, moi je pense qu'il y a une inquiétude. J'ai une inquiétude globale, c'est que a priori cette finale c'est une fête fabuleuse. C'est la première fois qu'on a d'abord un club français en finale. Ça arrive pas tous les jours.
Et en plus en France,
c'est un joli parcours et puis un club tellement populaire qu'évidemment ça brasse quand même pas mal d'énergie. Un super stade, parce que Lyon a construit un superbe projet, un super stade, et que c'est la première fois qu'un club, à ma connaissance, c'est la première fois qu'un stade en dehors de Paris organise une finale de Coupe d'Europe. Donc c'est une réussite importante pour un club, en l'occurrence, parce qu'ils ont fait ce stade, mais enfin pour la France en règle générale. Donc on a tout pour une fête, pour faire une fête absolument magistrale et magnifique. Et on a également tout pour discréditer à jamais le football français. Parce que vous imaginez s'il y a des bagarres, s'il y a des choses ridicules dans ce stade, des chants, des choses comme ça, mais toute l'Europe va regarder ça en disant mais ils sont complètement déglingués, ils sont déglingués ces gens-là, ils sont déglingués, ce sont des grands malades.
Alors
vous pensez la risée de l'Europe, j'espère que non.
Vous pensez qu'il va y avoir un appel au calme, qu'il va y avoir
le 15 mai, le 15 mai parce que c'est demain, on est le 8.
Oui, le match il est le 16
dans une semaine.
Si ils lancent les appels le 15, c'est un peu tard.
Mais le problème, c'est qu'ils sont toujours en compétition pour la place européenne, ça veut dire. Il peut y avoir une accalmie.
Ça va jouer sur le terrain, chérif. Ça va jouer sur les terrains de Ligue 1. Puis le meilleur finira deuxième, le moins bon.
Ça n'entache pas la finale.
Moi, j'ai tendance à penser que ça s'aggrave. Parce que là, on est descendu aux entraîneurs.
Exactement.
On était au président, on est descendu aux entraîneurs. Ouais. Demain, il se passe quoi? On se demande.
Je vois que Benjamin Mendy, par exemple, sur les réseaux sociaux, quand Marseille est en finale, se qualifie contre Salzbourg, il chante la chanson. Alors lui, il est loin de tout ça. Il est en Angleterre, il essaye d'avoir son billet pour la Coupe du Monde. Il revient à City. Mais même au huitième degré, il reprend la chanson. C'est-à-dire que la chanson, elle a traversé la Manche, elle a traversé partout. C'est dommage. Parlons d'autre chose, quoi.
Qui peut intervenir pour mettre un holà à tout cela?
Il n'y a pas vraiment d'autorité dans le football français.
Mettre un holà.
Holas, il est jugé parti parce qu'il est vice-président membre du comité exécutif de la fédération.
Ses petits tweets.
Le président Le Graët, il est affaibli par la maladie. Didier Quillot, Nathalie Bois-de-la-Tour, leur voix ne passe pas.
Ils ont déjà appelé au calme.
Nathalie Bois-de-la-Tour a demandé appel au calme, mais personne ne l'écoute, malheureusement.
L'UEFA, peut-être. Peut-être que l'UEFA.
L'UEFA,
il ne
parle pas, mais il sanctionne.
L'UEFA ne s'occupe pas de la sécurité. Sur une finale comme ça, l'UEFA ne s'occupe pas de la sécurité. Il s'occupe de l'organisation du match à l'intérieur, mais pas de la sécurité. Je pense que les avertissements qu'ils vont faire à Lyon, qui est, rappelez-vous aussi, que Lyon est sous le coup de nombreuses menaces suite à Beşiktaş, suite à Moscou, etc. Un sursis, tout rouge, oui. Donc je pense qu'il y aura suffisamment d'avertissements. J'ose espérer qu'il y aura suffisamment d'avertissements.
En tout cas, vous avez raison. Il manque très peu de temps.
Tout ça est un duel pathétique au départ entre Hérault et Aulas. Tout ça est un duel pathétique de virilité. Je dis pas le mot à l'antenne, mais vous voyez, quand deux hommes se comparent les choses, vous voyez, donc c'est quand même pathétique, quoi. Tout ça, au départ, c'est pathétique. Ces gens-là jouent avec le feu. Parce qu'autour d'eux, il y a des supporters, il y a des équipes.
C'est ce qu'on déplore.
Et voilà. Et tout le monde n'a pas la sagesse d'avoir du recul.
C'est pour ça qu'on avait mis un peu d'humour avec Astérix et Obélix, en espérant que
Il en faut de l'humour dans ce monde-là. Hein.
Ouais, il en faut. Merci, messieurs. Merci beaucoup d'avoir animé aussi gaiement ce Radio Foot International. Chers auditeurs, n'oubliez pas donc ce soir la finale de la Coupe de France qui sera en direct sur RFI à partir de 21h heure de Paris. Et puis, pour ce qui est de Radio Foot, eh bien, on se retrouve juste à la fin de ce match. À tout à l'heure et merci. Bon match.